Allô, allô? Voilà, ça va. Ça va, ça va. Bon, alors, vous avez dit 300 000 initiés, d'accord, 300 000 Kanzo, mais il y a quand même 5 millions d'haïtiens. Et ce mec, il y a ça qui sert. Ah, que qu'on le veuille ou non. Alors, ces fidèles, ces serviteurs, ils ont leur loi. Ils ont leur mystère à honorer une fois tous les 18 mois ou une fois tous les 3 ans, tous les 5 ans. Et quand la période approche, il y a quand même la terreur. Claude Plançon, cette terreur.
Non, c'est pas la terreur. Non, c'est le contact avec le sacré. Et le contact avec le sacré, ça n'est pas une petite affaire. C'est tout d'un coup de s'apercevoir qu'on n'est pas seul, qu'on est relié. Qu'on est relié d'abord à ses morts. Nous, en Occident,
vous
nous
dites?
sommes à ses morts. Nous, d'abord, en Occident, on a perdu le culte des morts. Vous savez que la mort, ça se fait en douce, hein, en cachette. On ne veille plus les morts, on ne va plus au cimetière. On ne parle plus de la mort, on en a honte. On cache ceux qui vont mourir derrière un paravent dans les Haïtiens, grâce à Dieu, comme nos ancêtres. Nos ancêtres, rappelez-vous, avaient sur nous, nos ancêtres occidentaux, avaient ce qu'on a mal traduit, les dieux lars, c'est-à-dire les ancêtres présents. Eh bien oui, parfaitement. On doit chaque année, ou chaque 2 ans, ou chaque 7 ans, les servir, rappeler qu'ils sont toujours vivants, qu'ils ne sont pas morts, qu'ils sont avec nous, qu'ils sont autour de la table familiale. Et naturellement, si on y manque, on a honte. Et naturellement, si on y manque, on se dit qu'on va avoir des malédictions. Et c'est vrai, quand on trahit ses morts, on est puni. Et c'est très bien. Et c'est très juste. Encore une fois, le vaudou, ça n'est pas une religion de la tendresse, du pardon, de l'oubli. Non, on doit faire ce qui doit être fait. Et c'est pour ça, parce que vous avez la fidélité à vos morts, que le docteur François Duvalier n'est pas mort. Mathilda, chaque fois qu'elle passe ici, va lui parler à sa tombe. Que Dessalines n'est pas mort. Que Toussaint Louverture n'est pas mort. Que Charlemagne Peyrade, quoi qu'il ait été crucifié sur la porte de la cathédrale de Hinche, n'est pas mort. Les morts sont présents. Et le jour où le peuple haïtien trahira ses morts, il pourra effectivement avoir la terreur.
Mais cette terreur, bon, je vous concède le mot, Claude Plançon. Cependant, le paysan qui n'a qu'un dixième de carreau pour gratter son maïs ou fouiller ses patates, et qui sait que tous les 4 ans ou tous les 7 ans, il doit vendre un bœuf pour aller honorer ses morts. Ah, est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'aliénation terrible?
Non, pas du tout. C'est juste le contraire de l'aliénation, à mon avis. Dans un ouvrage très remarquable, d'une étude sur les religions, faite par toute une équipe de prêtres et d'évêques, qui s'appelle Christus, qui est un manuel de l'histoire des religions, paru vers 1947 ou quelque chose de ce genre, à propos du sacrifice, on insiste sur la valeur exemplaire du sacrifice. Sacrifier et perdre quelque chose de très important. Dans la vie, il faut toujours payer. Voyez-vous, Jean-Dominique, il faut toujours payer. On n'a rien sans payer. Les psychanalystes modernes demandent de très hauts honoraires à leurs patients pendant des années. Et la cure en dépend dans une grande mesure. Il faut qu'il y ait un très grand sacrifice pour que la cure donne son plein effet. Il est plaisant de voir que la science moderne, puisque la psychanalyse se prétend une science, il est plaisant que la science moderne ait retrouvé les traditions du vaudou. À savoir qu'il faut de grands sacrifices si on veut avoir des bienfaits. On n'a rien pour rien. C'est une vieille loi, vous savez, en amour, si tu n'aimes pas une femme, elle ne t'aimera pas. Tôt ou tard, et réciproquement. C'est une vieille loi, c'est la loi de l'amour. C'est ça le vrai amour. C'est le sacrifice pour les autres. Et c'est là où les chrétiens ont trouvé une chose admirable, c'est le sacrifice du Christ, non? Qui se sacrifie, et bien c'est la même chose. Et lui, il s'est sacrifié son propre corps et sa propre chair. Et bien les vaudous, ils ont un sacrifice qu'ils ont de plus beau. Un bœuf, un cabrit, un cochon, une poule, une mangue, quelquefois seulement quand ils n'ont qu'une mangue. Ils disent qu'il faut que les morts mangent avec eux, que les lois mangent avec eux. C'est la plus belle de toutes les communions. C'est la communion de l'homme avec le reste de la nature, avec ses morts. Et c'est la preuve que nous avons raison, nous vaudouisants, quand nous pensons que la mort n'existe pas. Que nous sommes à la fois morts et vivants. Tous nos morts sont en nous. Tu sais bien, Jean-Dominique, que ta mère est là, que ton père est là, que tes grands-parents, tes arrière-grands-parents sont en toi. Toute la psychanalyse moderne, elle aussi le dit. Nous ne sommes pas seuls. Le monde occidental a visé à nous couper de toutes nos racines dans toutes les directions, à nous rendre seuls. Et on a vu à quoi ça aboutit. Ça aboutit, pour reprendre un vieux mot, à la folie. Et pour prendre un mot moderne, à la psychose épouvantable, la manie dépressive, la schizophrénie, qui est vivre dans un espèce d'univers différent, etc. L'équilibre du vaudouisant, l'équilibre du paysan haïtien, elle est faite de sacrifices, comme nous tous. Il n'a pas la télévision. Il n'a peut-être même pas la radio. Il n'a pas un réfrigérateur. Il n'a pas une automobile. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus heureux que l'ouvrier d'usine de chez nous, qui a une qui a un réfrigérateur, qui a la télévision, qui a une automobile. Tout le monde occidental, au cours de ces 10 dernières années, est en train de reconsidérer sa position et de s'apercevoir qu'il était extrêmement malheureux à travers son bien-être matériel. Naturellement, je souhaiterais que le peuple haïtien progresse, qu'il soit moins malheureux, qu'ils aient plus d'argent, qu'ils aient plus de bien-être et qu'il n'y ait pas de problème d'alimentation et de ce genre. Nous sommes tous d'accord. Mais je crois, j'en suis sûr, que le sacrifice que va faire le paysan prouve qu'il est parfaitement un être humain. Et que c'est en ça qu'il se diffère de l'animalité. C'est qu'il est un être humain au sens complet du terme. Il n'a renoncé à rien de la qualité d'homme.
Claude Plançon, mettons les choses au point à présent. Je tiens à définir ma position. Parce qu'en nous écoutant, l'auditeur pourrait être tenté, et vous pourriez être tenté, de dire que je vous conteste de l'autre côté de la barrière. Je suis profondément, et tout le monde le sait, à Port-au-Prince et en Haïti, à ce micro où je défends souvent les valeurs culturelles de mon peuple, je suis profondément convaincu, comme vous, que les traditions que représente le vaudou, que prolonge le vaudou en Haïti, sont pour nous une raison d'équilibre avec nous-mêmes et d'équilibre avec notre milieu, notre écologie, puisqu'on en parle. Bon. Ceci dit, je ne veux quand même pas, à cause de cette défense et illustration des traditions culturelles et religieuses, me mettre à genoux devant. Je veux critiquer, je veux savoir ce qu'il y a au-delà. Je veux savoir ce que cela cache, ce que cela peut cacher, comme toute religion, d'éléments d'aliénation. N'est-ce pas ? Bon. Alors, je vous arrête sur le côté sacrifice. Il est évident qu'il y a là un profond mystère, dans le sens le plus étymologique, le plus médiéval du mot. Profond mystère de l'homme, c'est que l'homme doit donner quelque chose de lui-même pour avoir cet équilibre, pour avoir cette sérénité en face de lui-même et en face des autres. C'est évident. Bon, cependant, un dixième de carreau, c'est pas beaucoup, c'est un mouchoir de poche. Et si, au bout de la chaîne, au bout du sacrifice, il y a un sacerdote qui en profite, qui lui est un gros foncier, nous touchons là peut-être la structure féodale du vaudou.
Oui. Alors, il faut encore revenir aux persécutions. Nous savons, de manière sûre, parce que c'est un exemple dans tous les pays, que lorsqu'il y a persécution, lorsqu'il y a mépris, lorsqu'on peut écrire, comme je l'ai lu il y a 4 ans dans un journal haïtien, que les Ungan et Mambo étaient tout en bas de l'échelle sociale. Nous savons que quand on place les gens en bas de l'échelle sociale, ils ont tendance à se comporter parfois, les moins bons, comme des gens qui ne sont pas dignes d'être là du premier échelon. Si on voulait faire l'effort de considérer les prêtres vaudous au même titre que les prêtres catholiques, les prêtres protestants, les imams musulmans ou les rabbins, il ne pourrait pas y avoir parmi eux certains mauvais prêtres. Il ne pourrait pas y avoir parmi eux certains faux prêtres, puisque les autres seraient reconnus. J'ai lu l'évolution stadiale du vaudou, je l'ai étudié soigneusement, en lisant cet ouvrage, on réalise parfaitement comment le refus de considérer le vaudou comme une authentique religion pousse une partie du vaudou vers une chose qui effectivement n'est pas la religion. Mais les coupables ne sont pas les vaudouisants, les coupables ce sont les adversaires du vaudou. Pendant longtemps, rappelez-vous, nous avons considéré, nous chrétiens, nous avons considéré pendant longtemps l'islam comme servant le diable, rappelez-vous. Rappelez-vous que les Templiers ont été brûlés sous prétexte qu'ils avaient une idole qui s'appelait le Baphomet. Rappelez-vous toutes ces histoires-là qui étaient des mensonges. Et les malheureux Templiers sous la torture ont avoué qu'ils servaient le diable, qu'ils embrassaient le derrière d'un bouc. En fait, c'est toujours les mêmes histoires. Ce qu'on reproche aux vaudous, c'est ce qu'on a reproché à tout le monde, aux albigeois, aux vaudois, à toutes les gens qui ont voulu ne pas accepter la règle et se défendre contre les gens qui voulaient niveler tout et imposer à tout le monde un dogme commun. Rappelez-vous ce qu'on a dit de nos mystères de l'Antiquité, la prostitution sacrée. Tout ça, c'était des mensonges. Tout ça, ce sont des inventions de toutes pièces, des fausses interprétations. Toutes nos mythologies de notre Occident ont été défigurées littéralement par cette oppression, par cette volonté de nivelage, qui ne correspond pas, bien entendu, au vrai esprit chrétien. Je crois donc que c'est dans la mesure où vous, haïtiens, prendrez conscience que le vaudou est une religion comme les autres, et j'oserais dire une religion prioritaire et antérieure aux autres, et qui représente une valeur culturelle importante et indispensable à l'humanité. C'est dans cette mesure-là que vous n'aurez plus des bocaux, que vous n'aurez plus des ungan-cha-cha, qui parfois, effectivement, parce qu'il faut bien vivre, parce que ceci, parce que cela. Mais à ce compte-là, rappelez-vous nos prêtres du Moyen-Âge, rappelez-nous nos abbés paillards, rappelez-vous nos moines paillards, rappelez-vous les scandales qui se sont passés dans les monastères, ça ne touche en rien le christianisme. Donc ce qui est, les bavures du vaudou ne touchent en rien le vaudou.
Bravo, je dis, parce que je me rends compte que si le vaudou n'est pas prosélyte, eh bien, ce nouvel adepte est vraiment d'un zèle, hein, en retirer son chapeau bas devant ce nouveau mystère Claude Plançon. Cependant, il faut aussi signaler que s'il y a de mauvais prêtres, s'il y a même eu de mauvais évêques, il y a même eu de mauvais papes, s'il y a eu tout un pan de cette église catholique ou chrétienne d'Europe occidentale à être rejetée par la modernité de la conception chrétienne, en analysant bien, on se rend compte que c'est parce que cette église, qu'on appelle l'église mauvaise, a soutenu un certain régime social. Il y a donc un rapport entre le mauvais prêtre, le moine paillard du Moyen-Âge et le seigneur paillard lui aussi, il se donnait la main. Il y a un rapport entre ce curé obscurantiste d'une province française du 19e et le sous-préfet qui lui aussi était aussi obscurantiste. Il y a des rapports entre le temporel et le spirituel, et ces rapports sont évidents dans notre société paysanne. Et ne doit-on pas imaginer, parce que je ne vais pas vous taquiner sur la féodalité, les structures féodales du vaudou, non, mais ne doit-on pas imaginer une future séparation, non de l'Église et de l'État, puisque ça n'existe pas chez nous, le vaudou n'est pas religion d'État, mais ne doit-on quand même pas imaginer une séparation du culte vaudou, de son enracinement disons structurel, son enracinement temporel, son enracinement dans la société elle-même. Que le Ongan ne soit plus un gros foncier, ni le notaire du coin, celui qui rançonne et qui prébande, non ?
Non, absolument pas, non. Vous savez ce que veut dire mambo en fond, ça veut dire reine. Oui, effectivement, les Ongans et les mambos se considèrent comme les authentiques descendants des rois africains qui détenaient le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel par surcroît. Il est vrai qu'à Haïti, les structures du vaudou ont représenté les structures authentiques du peuple, pas seulement de la paysannerie. Je ne veux pas qu'on me raconte que le vaudou est une affaire paysanne. Le vaudou est autant une affaire urbaine qu'une affaire paysanne. Il est vrai qu'en face d'une féodalité bourgeoise capitaliste, il y avait, et il y a toujours, une féodalité populaire, paysanne et prolétarienne. Il est vrai que les églises chrétiennes, qu'on le veuille ou non, représentaient ici une promotion sociale. Il est vrai que d'être catholique ou d'être protestant représentait et représente encore une promotion sociale, de même que parler le français est une promotion sociale. Il est vrai, mais je ne me permets pas de juger Haïti, parce que, en l'occurrence, c'est la même chose, ça a été la même chose dans notre Occident sous une autre forme. Il est vrai qu'il y a deux couches de société, une couche de société qui parle français, qui est catholique ou protestante, et qui prétend détenir la culture, à tort, et qu'il est vrai qu'elle prétend détenir le savoir, et il est vrai qu'il y a une deuxième couche de la société, qui représente le peuple, qui détient le gai savoir, comme disait Nietzsche. Par opposition. Donc ce que vous proposeriez de détruire sont les structures populaires, c'est-à-dire livrer le peuple sans armes, sans structure, les véritables structures populaires. Lorsque vous avez besoin de faire une fête populaire comme le carnaval ou comme les raras, où allez-vous le chercher sinon ailleurs que dans le vaudou? Autrement, vous tombez dans les chars avec les orchestres modernes, l'assimilation, c'est-à-dire la destruction très rapide du carnaval, le jour où le carnaval n'est plus, mais le blanchiment du carnaval. Quand je vois une reine carnavalesque qu'on a choisie sous prétexte qu'elle savait lire, écrire et qu'elle pourrait parler bien le français, qu'elle était en seconde, j'en parlais l'autre jour au maire d'une ville haïtienne, je lui ai dit, vous auriez mieux fait de choisir une paysanne, excusez-moi, elle était plus représentative de votre population. L'essentiel, c'est qu'elle soit représentative de la population. Le fait qu'un gant, ce qui n'est pas courant d'ailleurs, soit un gros propriétaire terrien ne me gêne en rien. D'abord, gros propriétaire. Disons moyen propriétaire terrien. Ça ne me gêne en rien. Au contraire, ça lui donne de l'indépendance. Le fait que son gant, lorsqu'un grand bourgeois avec une grosse voiture américaine vient lui demander de faire des wangas pour obtenir ceci ou cela, lui demande beaucoup d'argent, il a raison, le gant. Il faut bien qu'il fasse vivre son temple. Je connais une mambo pour laquelle j'ai le plus grand respect, la plus grande estime, parce que c'est une des femmes les plus bonnes, les plus saintes au sens chrétien du mot que je connaisse. Elle a à sa charge 136 personnes à nourrir par jour. Elle a des petits-enfants à sa charge. C'est pas eux, avec leurs 4 sous, qui peuvent faire vivre ce temple. Chacun apporte ce qu'il peut. Mais grâce à Dieu, il vient quelquefois des grands bourgeois lui demander de faire ceci ou cela, et elle leur demande beaucoup d'argent. Elle a raison. Qu'est-ce que fait d'autre le prêtre catholique lorsqu'il demandait au Seigneur de construire sa cathédrale, lorsqu'il demandait à ma propre grand-mère de mettre des vitraux dans l'église Saint-François de Sales? Qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Je pense que détruire les cadres du vaudou, ne pas leur arracher leur sécularisation, c'est détruire le vaudou lui-même. Aucune église n'a vécu sans hiérarchie. Il y a effectivement une hiérarchie dans le vaudou, mais n'oubliez jamais surtout cette chose tellement importante que le prêtre vaudou a tout fait de lui-même. Enfin, je rappelle pour les gens qui ne le savent pas, qu'il ne suffit pas d'avoir reçu le haçon pour avoir un temple, qu'il faut ensuite le construire. Qu'il faut ensuite, on n'a pas de canzo tant que les gens n'acceptent pas d'être vos propres enfants. Il faut donc trouver des gens qui vous aiment assez pour souhaiter devenir vos propres enfants, qui acceptent les lourds sacrifices qu'implique l'initiation canzo pour faire vivre le temps, que donc le Ungan ou la Mambo ont fait bien plus que n'a jamais fait un psychanalyste. Ils ont sacrifié toute leur vie à ça, qu'ils en trouvent quelques bénéfices matériels ne me gênent en rien, d'autant plus qu'ils les redistribuent en toute occasion. Enfin, il suffit d'aller dans n'importe quel temple, dans l'endroit le plus pauvre, aller à Bel Air comme j'y étais l'autre jour, on va pas dire que c'est un quartier riche, voir les sacrifices que font les Ngans et les Mambo pour qu'il y ait de la tenue chez eux, pour qu'il y ait de la propreté. Je m'inscris totalement en faux contre tout le mal qu'on dit des Ungans et des Mambo. Je prétends qu'il s'agit d'une forme pernicieuse et habile de la persécution. Les vrais Ungans et les vrais Mambo, encore une fois, je parle de ceux qui ont le haçon et ceux qui ont reçu le secret, sont, à ma connaissance, d'une très haute qualité morale que je souhaiterais voir partagée par les prêtres de toutes les autres religions.
Claude Plançon, avec Mathilda Beauvoir, celle que vous appelez votre mère spirituelle. Claude Plançon, vous avez, avec Mathilda Beauvoir, depuis quelques années, un houfort à Paris. Vous avez même un couvent autour de ce houfort. L'on vous accuse, Mathilda et vous, de faire du commerce de notre religion en plein cœur de Paris.
Vous noterez que c'est exactement ce qu'on reproche aux Ungans et aux Mambo Haïti. Et c'est exactement le même cas. Non seulement nous ne faisons aucun commerce, mais je dois dire que je m'y suis ruiné. Grâce à Dieu, j'avais un certain nombre d'héritages de mes parents qui m'avaient laissé un peu d'argent. Et puis, je vais vous raconter un secret que je n'ai encore jamais dit à personne. Je suis breton. Ma famille est originaire de Saint-Malo. Dans ma famille, dans la famille de ma grand-mère et de mon grand-père, quand j'étais un petit garçon, on montrait des objets qui venaient de Saint-Domingue. Et ma famille a fait fortune dans le trafic du bois d'ébène.
C'est pas possible.
C'est vrai.
Vous êtes un sale esclavagiste.
Voilà. Alors peut-être que les lois ont voulu que je
restitue
ce que mes ancêtres avaient volé. Et le Hunfort que nous avons fait à Paris n'est pas du tout une affaire commerciale, tant s'en faut, étant donné que nous faisons des cérémonies une fois ou deux par semaine au maximum, et que vous savez ce que coûte, vous qui avez voyagé, Jean-Dominique, des immeubles, des locaux, les lumières, enfin vous imaginez que ce sont des millions. Invitez aussi, comme nous le faisons chaque année, une quinzaine de Hunsi à venir vivre avec nous en communauté pendant 10 mois pour retourner ensuite dans leur pays pour s'acheter une terre et devenir indépendant. Vous imaginez, compte tenu du prix de l'avion seulement de Port-au-Prince à Paris, que ça ne peut pas, quoi qu'il arrive, être une affaire commerciale. Ce qui m'inquiète, c'est que ça ne pourra peut-être pas durer toujours, mais grâce à Dieu, avec le prince Pierre de Grèce et de Danemark, avec le professeur Broïda, avec le docteur Donard, avec Nadjoudine Bamat qui est directeur des relations culturelles de l'UNESCO, avec l'appui de Matarmbo qui est le directeur général de l'UNESCO, grâce à Dieu, nous avons pu constituer des associations qui, je ne vous cache pas, aident à rendre matériellement les choses possibles. Alors à parler de commerce à partir de là, excusez-moi, il s'agit là donc purement et simplement toujours de la même vieille histoire, salir ceux qui ne pensent pas comme vous. Moi, je ne dis pas que le christianisme est un commerce.
Claude Plançon, le vaudou à Paris, pourquoi ? Pourquoi les Blancs seraient-ils un beau jour touchés par notre grâce ?
Quand j'ai connu le vaudou, vous savez ce que ça m'a appris ? Ça m'a fait découvrir ma culture, à moi occidentale. Je ne veux pas dire naturellement que le vaudou vienne de l'Occident, c'est pas ça du tout. Je veux dire que le vaudou, comme je répète, n'est qu'un rameau d'une grande tradition primordiale qui a vécu partout, d'un grand mouvement spirituel universel, initiatique. Pendant toute ma jeunesse, on m'a appris ce qu'était la Grèce antique, on m'a parlé des religions à mystère, on m'a parlé d'Eleusis, qui est devenu un cimetière chrétien, il ne reste rien. Il n'y a pas un texte sérieux sur Eleusis, sinon des défigurations. Même les poèmes qui ont été écrits à l'époque ont été falsifiés par les traducteurs chrétiens. Donc j'ai retrouvé dans le vaudou ce qui était notre grande tradition. Rappelez-vous que tous les grands hommes de l'Antiquité parlent des mystères d'Eleusis comme du plus beau jour de la plus belle période de leur existence quand ils ont été initiés au mystère. Le vaudou m'a restitué les mystères d'Eleusis. Le vaudou m'a restitué Dionysos. Le vaudou m'a restitué mon Antiquité gréco-latine, mon Antiquité celtique, le druidisme, les traditions germaniques, tout ce qui faisait les traditions authentiques de l'Occident. Qui ont été détruits par le judéo-christianisme. Pas détruits tout à fait, bien sûr. La preuve, c'est que ça ne demande qu'à jaillir comme une source qu'on a murée et qui éclate. Et alors là a été le phénomène le plus extraordinaire. Dans l'aune fort.
Oui, on dit que certains de vos spectateurs, initiés par Mathilda, arrivent à connaître l'extase sacrée. Est-ce vrai ?
Mais naturellement que c'est vrai, c'est même une banalité. Des centaines de Français ont été montés par les lois, parce que je ne veux pas qu'on parle du mot possession, qui est un mot abominable, qui date, comme vous le savez, de l'Inquisition. Mais bien entendu, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour avait lieu à Paris un congrès de médecins très important qui s'occupe des problèmes de sophrologie, plus particulièrement. Ce congrès était un congrès international, il y avait des Allemands, des Espagnols, des Anglais, c'était présidé par le docteur Donard, qui est un médecin psychiatre français très célèbre et très connu. Ils ont téléphoné à Mathilda en disant, à la fin de ce congrès, où nous avons étudié les phénomènes dits de possession, et nous avons conclu qu'ils dépendaient de conditions socio-économiques particulières, thèse qui a été défendue souvent, vous le savez, par un bon nombre d'ethnologues. Mais ça nous intéresserait de voir une cérémonie vaudou, est-ce que vous nous autoriseriez, parce que c'est complètement fermé, notre une force, seules les personnes qui... C'est pas du tout un spectacle qui est montré aux gens, bien entendu, ça n'a rien à voir avec les fausses cérémonies vaudou qu'on voit à Haïti. Est-ce que vous accepteriez de nous recevoir à une quarantaine ? Mathilda a dit oui, d'accord, docteur, elle connaissait bien Donard, elle savait que c'était sérieux, et ils sont venus. Ils sont arrivés très en retard, parce que leur réunion de congrès s'est terminée vers 10h du soir, ou vers 9h du soir, et la cérémonie battait son plein. Le docteur Donard était là donc avec une quarantaine d'occidentaux, dont sa fille, qui est psychiatre, à Sainte-Anne. Sa fille a été montée par maîtresse Erzuli à la porte du Hunfort, et pendant une heure, elle a réclamé ses colliers. Elle a réclamé son parfum. Elle a réclamé son siège sur lequel elle s'est assise. Elle a tendu le petit doigt, ce qu'aucun occidental ne pouvait connaître, les deux petits doigts, ce qui est la manière dont maîtresse Erzuli salue. Elle a tendu deux petits doigts au spectateur et elle s'est mise à parler en créole. Elle n'avait jamais entendu parler du créole et elle s'est mise ensuite à chanter une chanson en fongbé, c'est-à-dire dans la langue secrète des temples d'Aoméen. Alors expliquez ça comme vous voudrez maintenant.
Je n'explique pas ça, moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, cependant, cela va un peu à l'encontre de ce que j'imaginais. Et nous allons peut-être toucher là quelque chose d'un tout petit peu plus profond que ce que nous avons dit jusqu'à présent. Cela va à l'encontre de ce que j'imaginais, parce que, en définitive, Claude Plançon, Erzuli, Agüetaroyo, Dambala, Ogou, Baron, Grande, sont pour celui qui les sert, celui qui est bientôt monté par eux, sont une tradition, un flux profond, un courant profond qui nous vient de très loin, que parfois on ignore, mais qui sont dans la tradition d'un peuple, dans la mémoire collective de ce peuple. Alors c'est ça que je ne comprends pas, que cette bonne femme, brusquement, qui est sur la rive, elle est sur la rive, elle voit passer le flot, le flot passe devant elle. Alors c'est ça que je ne comprends pas, Claude Plançon.
Ah, voyons. Quand on considère... J'ai fait dans mon livre « Anne Missier parle » un petit tableau. Je prétends pas donner une leçon à qui que ce soit, mais j'ai essayé de moi-même de voir clair, où j'ai mis côte à côte les principaux lois du vaudou haïtien, avec leurs caractéristiques, leurs couleurs, leurs arbres, les arbres qui leur correspondent dans le monde végétal, le comportement qu'ont les gens quand le loi les monte, les animaux qui leur sont sacrifiés, et leur correspondance avec ce qui me semblait être les mythologies grecques, romaines, celtiques, germaniques. On retrouve toujours et partout les mêmes. Bien entendu que Erzulis et Vénus, ou bien entendu que Calphus et Hécate, bien entendu que Agoué, c'est Neptune ou Poséidon, même correspondance, bien entendu qu'il y a trois Erzulis, n'est-ce pas ? L'Erzulis Rada, l'Erzulis Petro, l'Erzulis Dantor, et comme par hasard, dans les mythologies celtiques et germaniques, il y a trois déesses de l'amour. Déesse, le mot est très mauvais, trois esprits de l'amour, ou plus exactement trois mystères de l'amour, ou plus exactement un amour à trois faces. Ce que nous connaissons bien, c'est l'amour sensuel, sexuel, tendre, celui d'Erzulis, c'est l'amour violent, la passion, qui est Erzulis et Erzulis Dantor, et c'est Erzulis Zila ou Erzulis Yeux Rouges, qui est la mère castratrice, c'est-à-dire les trois formes de l'amour que nous rencontrons tous les jours autour de nous. Et ça, c'est tout à fait significatif. Donc, ces archétypes, pour reprendre le mot de Jung, ces archétypes sont dans l'inconscient de tous les hommes. Et c'est peut-être par la voie de l'inconscient collectif dont parle Freud, peut-être qu'il y a un fond commun à tous les hommes, un inconscient, des canaux qui nous relieraient à un inconscient, qui nous concernent tous, qui ont permis que, du moment qu'il s'agissait d'une cérémonie de vaudou haïtien, elle s'exprime en haïtien, de même que combien de fois l'Inquisition parle de gens qui, c'est même une des preuves de la possession diabolique, disent-ils, qui parlent une langue étrangère qu'ils ne peuvent pas connaître, qui parlent le latin, qui parlent l'araméen. Il s'agit là de, tout d'un coup, de l'irruption de l'inconscient collectif dans le conscient d'une personne, et qui apparaît à la surface.
Mais attention, Claude Plançon, vous êtes en train de diluer notre authenticité. Vous êtes en train, avec Jung, avec Freud, avec Adler, avec tant d'autres, et avec vos archétypes, de diluer ce qu'il y a de plus original chez nous, de plus essentiel dans notre personnalité. Évidemment, Erzulis a trois faces, évidemment, mais c'est quand même le cœur pintelé, c'est quand même notre cœur à nous. Évidemment, Neptune et Poséidon, c'est Agueta Royo. Mais attention, là encore, je vais retrouver cette structure de notre société féodale et post-coloniale, donc encore coloniale, quoique post. Agueta Royo, c'est un blanc yeux bleu babcanel. Et là, il y a Claude Plançon, cette terreur négrière du traumatisme de la mer.
Non, ça va. Je ne crois pas. Je vais te dire pourquoi. Je ne crois pas. Lorsqu'on a découvert les premiers ossements, les ossements d'un des premiers êtres humains qui a vécu dans notre Occident, en France, on l'a appelé l'homme de Grimaldi. Depuis, on a étudié le squelette et on s'est aperçu qu'il s'agissait d'une femme. Et d'une femme noire. Tu sais que le squelette des noirs n'est pas le même que le squelette des blancs, tout à fait. On a découvert que c'était une femme noire. Et ce n'est pas un hasard si dans le catholicisme, il y a des quantités de vierges noires qui sont des représentations de la terre-mère, qui sont bien entendu d'anciennes idoles, pour prendre la phraséologie habituelle, et que nous respectons. Il y en a une à Chartres, on l'appelle Notre-Dame de Souterre. Il y en a une à Cracovie. Il y a aussi... Chez Stokova, il y en a partout, il y en a des dizaines, et très souvent, Sur la Vierge de Cracovie, par exemple, on voit deux scarifications sur la joue. Scarification que l'on retrouve dans la Vierge des Sept Douleurs de l'Amérique latine, qui est représentée sur l'identor dans les Unfors. C'est assez troublant, hein, c'est bien des vierges qui représentent, qui ont été assimilées par le christianisme. Ce fameux odieux mélange, horrible mélange dont on nous parle, ce ne sont pas les vaudous, ce fameux syncrétisme dont on nous parle, non seulement n'est pas à sens unique, mais a été imposé par les chrétiens. Ça, les vaudouisants n'y sont pour rien. C'est parce qu'on leur a imposé ces images pour quand on les a christianisés de force qu'ils ont assimilé simplement ces images.
Non, en fait, non. Alors là, une petite parenthèse, vous me permettrez, c'est un syncrétisme de protection.
Hein? Bien entendu que c'est assez. Et pas seulement de protection. Je connais l'exemple, il est très clair parce que je me suis amusé à faire la chose en Afrique. C'est-à-dire amener des images chrétiennes dans des temples du Vaudoune, dans ce qu'on appelle les couvents fétichistes, dans cette affreuse langue des missionnaires et des ethnologues. Dans des couvents fétichistes, je me suis amusé dans des couvents fétichistes où ils n'avaient aucun contact avec l'imagerie chrétienne.
Donc aucune contrainte.
Donc aucune contrainte à leur montrer des images. Et ils ont reconnu.
Ils ont reconnu
des esprits. Par exemple, le Buroku. La fameuse représentation de Saint Jacques sur un cheval noir avec un sabre à la main et un manteau rouge. J'ai dit que c'est quoi toi pour toi, ça? Ah ben ils ont dit c'est au goût. Bien sûr, c'est le rouge et c'est le sabre, c'est le symbole de la guerre, c'est le symbole de la violence.
Pour en revenir à cette Vierge Noire.
Eh bien, pour en revenir à cette Vierge Noire, nous avons donc, nous prions donc, nous, occidentaux, une Vierge Noire, non? Je ne vois pas du tout pourquoi ce serait gênant que vous reconnaissiez que certains lois soient blancs. Il y a un fond commun de l'humanité. L'homme, tu le sais aussi bien que moi, est né en Afrique. Bon, nous savons maintenant, nous le savons de source absolument sûre. Vous allez voir bientôt à Haïti un film qui a été tourné dans tout le monde noir, sur la diaspora noire, par un garçon qui s'appelle Mazel, qui a tourné d'ailleurs une cérémonie à vaudou à Haïti, que dirige Mathilda Beauvoir, dans un temple qui se trouve en pleine ville. Il insiste sur cette naissance de l'humanité en Afrique. Je crois que nous partons tous d'un fond commun. Bien sûr que chaque peuple est authentique. Bien sûr que le peuple haïtien est particulièrement authentique et a particulièrement maintenu son authenticité culturelle.